Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
La dernière fois, nous avons considéré ce que le livre des Proverbes nous enseigne au sujet de l'amitié. Certains proverbes nous mettent ainsi en garde contre les amitiés intéressées. D'autres nous décrivent ce que représente une véritable amitié, vécue à travers la fidélité et la constance de véritables amis, quelles que soient les circonstances de la vie. Mon invité Alain va encore aujourd'hui nous parler de l'amitié à travers l'enseignement contenu dans les Proverbes. Bonjour.
Bonjour Yann. J'aimerais commencer aujourd'hui en citant deux proverbes dont les propos risquent de surprendre. Lisons au chapitre 27, le verset 6. « Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Ensuite, chapitre 28, verset 23. « Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur plutôt que l'homme au langage flatteur. »
Il est vrai que les mots « reprendre » ou « blesser » utilisés par ces proverbes semblent être en contradiction avec nos idées sur l'amitié. Comment expliquez-vous ces proverbes ?
Nous abordons maintenant des questions délicates. Ces proverbes montrent que dans le contexte d'une amitié solide, nous pouvons reprendre un ami si nous constatons qu'il s'écarte de la voie de la sagesse. Il pourrait arriver qu'un de nos amis se conduise mal dans tel ou tel domaine de la vie, et nous pouvons l'avertir sur les conséquences de ses actes. Parfois, un ami peut prendre une décision mal avisée. Une fois de plus, nous devons le prévenir des conséquences qui pourraient en résulter.
Mais en agissant ainsi, ne risquons-nous pas de briser une amitié ?
Il est vrai que reprendre un ami peut amener une tension ou un conflit. C'est pourquoi il faut agir avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Cependant, nous devons tenter d'aider notre ami, particulièrement si nos conseils lui seront bénéfiques. En agissant ainsi, nous lui montrerons que nous nous soucions de lui. Les proverbes évoquent aussi le cas où un prétendu ami affirme toujours être d'accord avec les idées de son ami, même si ce que ce dernier croit doit le conduire à la catastrophe. Les proverbes nomment une telle attitude la flatterie. Or, la flatterie peut enorgueillir ou aveugler nos amis. Et le malheur attend celui qui préfère écouter les flatteries plutôt que les bons conseils, parfois difficiles à entendre des vrais amis.
Merci Alain. Je suis convaincu qu'une véritable amitié devient plus forte encore dans les moments difficiles. Si l'on aime vraiment son ami, si on le respecte, on pourra alors plus facilement écouter ses conseils et en bénéficier.
Tout à fait. Cependant, certains proverbes nous mettent en garde contre les conduites qui risqueraient de nuire à une amitié.
Pouvez-vous en citer quelques-uns ?
Commençons avec celui se trouvant au chapitre 25, verset 17. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et ne te prenne en haine.
Autrement dit, il ne faut pas abuser de la disponibilité que nos amis peuvent nous accorder.
C'est exact. Nous avons des engagements dans la vie, des responsabilités à honorer, et notre temps est limité. Aussi, si un ami commence à s'imposer, à profiter de notre bonne volonté, cette amitié peut devenir un fardeau et non plus un sujet de joie. À la longue, elle pourrait se briser.
Et selon les proverbes, quelles autres attitudes faut-il éviter ?
Les trois proverbes que nous allons étudier maintenant évoquent le danger de ne pas adopter envers notre ami la bonne attitude au moment voulu, ou de prononcer à son égard des paroles blessantes, voire inappropriées, à la situation dans laquelle il se trouve. Écoutons pour expliquer cela le verset 14, chapitre 27. Si de grand matin quelqu'un vient bénir son ami à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. Ensuite, chapitre 25, verset 20. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Et enfin, chapitre 26, versets 18 et 19. Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son ami et qui dit ensuite « c'était pour plaisanter ». Avant d'agir ou de dire quelque chose, nous devons réfléchir et nous demander comment notre ami va recevoir telle ou telle démarche particulière. Est-il sage, par exemple, de frapper à sa porte lorsqu'il est encore endormi ? Est-il sage de s'amuser en sa présence alors qu'il est affligé de graves soucis ? Réfléchissons aussi aux taquineries et aux plaisanteries que nous pouvons prononcer. Pourrait-elle faire du mal ou détruire, même si nous n'en avions pas l'intention ?
L'amitié est véritablement un cadeau fort précieux. Il faut travailler à l'entretenir avec sagesse, car des paroles ou des attitudes inappropriées pourraient la mettre en danger. Les proverbes nous conseillent-ils sur ce que nous pouvons faire lorsque des différends ou des torts viennent nuire à une amitié ?
Tous, nous sommes imparfaits et nous pouvons commettre des fautes qui blesseront nos amis. Écoutons donc ce proverbe au chapitre 17, verset 9, montrant quelle doit être la démarche du véritable ami. « Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. »
Quel merveilleux verset! Il parle du véritable amour. Si nous ne pardonnons pas à notre ami les fautes qu'il a pu commettre, nous risquerions de devenir rancuniers et d'être conduits à rendre le mal pour le mal. Par contre, le pardon protège une amitié sincère, la rendant plus forte encore. Que Dieu accorde à chacun la grâce de vivre une réelle amitié, la grâce d'être un véritable ami pour les autres.
À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Et Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouve totalement démuni et affamé. Écoutons maintenant la suite de cette parabole racontée par Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 15.
Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père.
Lors des émissions précédentes, nous avons appris que les actions de ce jeune homme représentent son rejet de Dieu et son péché. Ensuite, il s'est retrouvé dans un état pitoyable, ce qui symbolise les conséquences de ses fautes. Certaines peuvent s'identifier avec ce jeune car il rejette Dieu pour pratiquer le mal et de ce fait, il se trouve privé de sa présence et de ses bénédictions. Mais le jour viendra où ils récolteront les conséquences malheureuses de leurs actes. La dernière fois, nous nous sommes posé la question, restait-il un espoir pour ce fils ? Flavien, qu'en dites-vous ?
Si jusqu'à présent, nous avons vu ce fils sombrer de plus en plus dans le mal et le malheur, ce que nous avons lu aujourd'hui marque un grand tournant dans sa vie, car dorénavant, il ne sera plus le même homme.
Et qu'est-ce qui a permis un tel changement ?
Ce jeune homme a commencé à réfléchir sérieusement à sa situation.
Et qu'en a-t-il conclu ?
Il s'est rendu compte de plusieurs choses. Tout d'abord, en se remémorant la vie chez son père et en la comparant à sa situation actuelle, il a réalisé qu'il était perdant et que même les serviteurs de son père menaient une vie bien plus aisée que la sienne. Ensuite, il a accepté le fait que s'il en était arrivé là, c'était à cause de ses choix irraisonnés. Il reconnut que par son comportement, il avait profondément offensé son père et par là même Dieu. Enfin, il prit une décision difficile, celle de retourner chez son père. Nous pouvons remarquer qu'il n'osa même pas croire qu'il y serait reçu comme un fils. Il espéra simplement y être embauché en tant qu'ouvrier.
Et quel parallèle pouvez-vous établir entre ce passage de la parabole et nos propres cheminements spirituels ?
Eh bien, beaucoup pensent pouvoir mener une vie convenable tout en rejetant Dieu et ses commandements. En fait, cette parabole nous montre le danger d'être séparés de Dieu et le fait que certaines épreuves peuvent nous aider à nous remettre en question. Car nous avons besoin de prendre conscience que nous ne pouvons pas vivre comme si Dieu n'existait pas sans en subir les conséquences. Nous avons également besoin de prendre conscience que certaines de nos épreuves sont le résultat de nos propres fautes. Enfin, si nous réalisons notre véritable condition devant Dieu, nous devons faire un choix. Car nous pouvons soit endurcir nos cœurs, persister dans notre rejet de Dieu, notre révolte, soit accepter que nous avons besoin de Dieu et lui exprimer notre désir de retourner vers lui.
Vous avez dit tout à l'heure que le jeune homme de la parabole a pris la décision difficile de retourner chez son père. Pourquoi pensez-vous que ce fut difficile ?
Mais tout d'abord, à cause de l'orgueil qui réside en chacun de nous, car nul n'aime admettre ses torts. Ensuite, à cause de la peur. Ce jeune homme ne savait pas comment il serait reçu par son père, ni par les villageois alentour. Retourner chez soi dans un contexte d'échec et de honte est humiliant. Les voisins étaient certainement au courant des circonstances honteuses de son départ, et ils risquaient de lui exprimer leur mépris, de l'insulter si jamais il revenait. Et son père était en droit de déclarer que ce fils n'était désormais plus un fils pour lui, et de ce fait, lui interdire de franchir le seuil de sa maison. Donc ce jeune homme prit une décision courageuse en décidant de retourner chez son père. Et, nous le découvrirons plus tard, ses craintes ne se réalisèrent pas. Toutefois, des peurs similaires peuvent freiner notre décision de retourner à Dieu. L'orgueil est d'admettre nos torts, la crainte que Dieu ne nous accueille pas favorablement, et la peur du « qu'en dira-t-on ? »
Merci, Flavien. Tout à l'heure, vous avez dit que les craintes de ce jeune homme ne se sont pas réalisées. Cela devrait rassurer toute personne qui n'ose pas croire que Dieu peut l'accepter telle qu'elle est.
Tout à fait, Yann. Et nous verrons comment ce père a reçu son fils. Et pour tous ceux qui aujourd'hui s'inquiètent d'être rejetés par Dieu, nous pouvons dire que l'Éternel est miséricordieux et qu'il reçoit favorablement toute personne qui s'approche de lui dans l'humilité, lui confessant ses fautes et son besoin de lui.
Et quelle leçon pouvons-nous retirer du fait que ce fils voulait retourner chez lui en simple ouvrier, car il semble renoncer à son statut de fils?
Écoutez, Yann, il y aura effectivement des choses à dire à ce sujet, mais nous y reviendrons la prochaine fois.
Merci, Flavien. Nous vous donnons donc rendez-vous dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.